Bonjour à tous. Jérémy Baucher, je travaille comme ingénieur de recherche au sein du laboratoire Handicom de Télécom Sud Paris. Je suis docteur en informatique et je m'intéresse plus particulièrement à la conception des systèmes ambiants d'assistance cognitive. Et donc je vais vous parler ce matin, en mon nom et aussi au nom de Mounir Mokhtari qui dirige le laboratoire et qui est actuellement à Singapour et qui ne peut être présent. Je vais vous parler d'assistance au domicile et plus particulièrement d'orthèse cognitive. Je ne vous ai pas prévu une présentation aussi technique que ça. Je voulais plutôt parler des filles, mais je ne manquerai pas de répondre à vos questions si vous en avez d'un point de vue technique. Alors pour commencer, j'ai pensé faire une petite introduction qui en fait devrait s'appliquer non seulement à mon tutoriel et à ceux de mes collègues qui présenteront donc par la suite. Sur la question de ticket santé, finalement, c'est quoi cette chose-là entre guillemets? De mon point de vue, ticket santé, je vois ça comme un espace de thématique en fait. Et donc la question, c'est au sein de cet espace, comment on peut classifier les différents travaux qui sont réalisés et à quels problèmes on tente de répondre nous. Donc ceux que vous allez voir, les travaux dont vous allez entendre parler ce matin et à quels problèmes on ne tente pas de répondre aussi. Donc définitivement, pour moi, lorsqu'on parle de ticket santé, on parle de la capacité de la technologie à fournir des réponses face à une problématique de santé quelle qu'elle soit. Et pour essayer de classifier un petit peu les sous-thèmes au sein de cet espace, on peut se poser un certain nombre de questions, de mon point de vue. Bon, on peut discuter cette classification, bien entendu. Et la première question, j'espère que c'est lisible, ça n'est pas trop sur mon écran, oui. C'est finalement, quel est l'utilisateur? Quel est l'utilisateur premier de la technologie? Et il peut s'agir de professionnels de santé. Alors l'utilisateur final sera, de mon point de vue, toujours la personne qu'on tente d'aider, qui a cette problématique de santé. Mais l'utilisateur premier peut être tout d'abord un professionnel de santé. Dans ce cas-là, on part dans les domaines de l'imagerie médicale, de la chirurgie assistée, etc., de l'aide au diagnostic, etc. Ce matin, nous allons vous parler plus particulièrement de services qui sont destinés aux personnes et non pas aux professionnels de santé. À partir de là, on peut s'interroger sur le profil de la personne. Est-ce que finalement, les services technologiques qu'on va lui fournir sont là pour prévenir? Alors, par exemple, les jeux de stimulation cognitive vont être là pour aider la personne à travailler la mécanique cognitive et peut-être limiter une détérioration qui est éventuellement prévisible. La technologie peut être là pour évaluer, pour réadapter et aussi pour accompagner. Moi, ce matin, je vais vous parler de services d'accompagnement et, de mon point de vue, mes collègues aussi. Donc, d'accompagnement, je m'intéresse donc à des personnes dont le profil est le suivant. Ces personnes sont en situation potentielle de handicap. Elles souhaitent réaliser les activités qui sont nécessaires à leur bien-être physique et moral, qu'on appelle les AVQ, les activités de la vie quotidienne, mais leur problématique va en fait limiter leur capacité à réaliser de façon autonome et sécuritaire ces activités de la vie quotidienne. Donc si elles n'ont pas une aide, si elles ne profitent pas d'une aide extérieure, elles risquent de se retrouver en situation de handicap. Alors elle est potentielle parce que si elles ont une aide, pourquoi pas technologique, on va peut-être éviter la situation de handicap. Voici un peu le profil. Après, on peut s'interroger sur l'origine. Qu'est-ce qui fait que ces personnes vont se retrouver en situation de handicap? L'origine peut être physique. Alors, le laboratoire Handicom a travaillé de longues années sur cette problématique-là. Aujourd'hui, on est plus dans le domaine de l'origine cognitive. Moi, je vous parlerai de ça ce matin et mes collègues aussi. Origine physique, il y a des projets qui s'intéressent à cette problématique actuellement. Alors j'ai cité là un projet Texan, Technologie pour la santé, financé par l'ANR. Le projet Miras, qui est un robot d'assistance à la déambulation. Okay, moi, je vais vous parler plutôt d'une origine problématique qui est d'origine cognitive pour les personnes. À partir de là, dernière question pour finaliser cette classification. Finalement, quel est l'objectif des services d'accompagnement que l'on souhaite fournir aux personnes? Ils peuvent être de télévigilance, donc pour comprendre des situations problématiques liées à la sécurité de la personne et envoyer cette information, envoyer des alertes, etc. Alors ça, mes collègues vous présenteront ça ce matin. Je pense que vous êtes d'accord. Ils peuvent être l'objectif peut-être d'une aide à la communication. Par exemple, le projet Paliacom de Télécom Bretagne, qui est aussi un projet texan financé par l'ANR, s'intéresse à cette problématique-là. Des personnes qui, à cause d'une problématique cognitive, ont des problèmes de production du langage, on va les aider, à limiter en fait cette problématique de production dans le langage, à limiter l'impact de cette problématique-là sur leur vie quotidienne. Et bon, moi, ce qui m'intéresse ce matin, c'est vous parler d'un service d'accompagnement dans la vie quotidienne. Lorsque la personne réalise dans son environnement, à son domicile, ses activités, elle veut préparer un repas, comment peut-on améliorer son autonomie ? Donc si je reprends un petit peu ma problématique des services d'accompagnement dans la vie quotidienne, l'objectif, il est, bon, c'est ce que j'ai en bleu au centre, c'est la qualité de vie des personnes. C'est ça qu'on veut définitivement favoriser. La qualité de vie, malheureusement, cette qualité de vie, à cause de troubles, par exemple de troubles de la mémoire, de troubles mnésiques, ou de troubles exécutifs, donc des troubles qui se manifestent lorsque la personne, entre guillemets, s'exécute, lorsqu'elle réalise ses activités, par exemple, les problèmes de planification. Elle a de la difficulté à conceptualiser les différentes étapes qui sont nécessaires pour réaliser une activité, pour atteindre un objectif. Par exemple, préparer mon repas, il faut que je m'y prenne de telle façon. Ça peut être problématique pour elle, des problèmes d'attention, etc. À cause de ces différents problèmes, ces personnes ont de la difficulté à réaliser leurs activités, donc leur qualité de vie est altérée. Ces personnes, en particulier, je pense à des personnes âgées qui ont une problématique de vieillissement pathologique, donc qui vont éventuellement avoir une démence de type Alzheimer et les autres maladies apparentées, puisque c'est le terme approprié. Je pense aussi à des personnes qui ont une déficience intellectuelle et à des personnes qui ont un traumatisme crânien. Ces trois populations, je préciserai un petit peu, me semblent, on ne va pas les mettre dans le même sac, mais il y a un besoin en fait assez identique d'assistance. Et donc, mon objectif, moi, c'est de développer un système qui va limiter l'impact des troubles cognitifs de ces personnes sur leur autonomie fonctionnelle, sur la capacité à fonctionner de façon autonome. Et ces outils, je vais les appeler des orthèses cognitives. Alors, une orthèse cognitive, c'est tout dispositif technologique qui est destiné à compenser les troubles cognitifs à des fins d'amélioration de l'autonomie. Alors, quelques petites précisions sur la clientèle, les personnes à qui je souhaite adresser ces services d'accompagnement dans la vie quotidienne. Donc, j'ai cité les personnes âgées, personnes avec une déficience intellectuelle ou avec un traumatisme crânien. Alors, on constate, moi je suis informaticien, je me suis intéressé à un certain nombre de choses. J'ai eu des formations en neuropsychologie, par exemple, mais je ne suis pas de ce domaine-là non plus. Je ne suis pas médecin du tout, mais il y a des études qui montrent qu'on retrouve des problèmes assez similaires chez ces différentes clientèles, en particulier ceux que j'ai cités, mémoire, troubles exécutifs. Donc il y a en fait une sorte de même réalité dans leur difficulté à mener à bien la réalisation de leurs AVQ, donc leurs activités de la vie quotidienne. Définitivement, on peut parler conjointement de ces différentes populations. Ça n'est, de mon point de vue, absolument pas un problème. Les enjeux sont différents, par contre. On connaît très bien l'enjeu pour les personnes âgées. On pense au maintien à domicile. Elles ont vécu toute leur vie à domicile. Et en fait, si on peut limiter l'impact de ces troubles cognitifs pour maintenir le plus longtemps possible, pour leur bien-être, tout simplement, ces personnes à domicile, l'enjeu, il est bien connu. Pour les autres clientèles, on pourrait s'intéresser plus particulièrement à l'accès à une vie autonome. Je pense par exemple à une jeune personne, un jeune adulte avec une déficience intellectuelle qui vit dans une famille d'accueil. Il va lui manquer un petit quelque chose pour prétendre à une vie autonome. C'est pas pour garder l'autonomie, c'est pour y accéder. Parce que bon, cette personne a peut-être son comportement peut parfois être problématique. Bon, là, c'était avec une personne âgée, mais on a encore entendu parler la semaine dernière d'une personne âgée avec une démence de type Alzheimer qui avait oublié le gaz. Voilà, alors si la technologie peut fournir ce petit plus qui manque pour accéder à une vie autonome pour ces autres populations, voilà, les enjeux différents, mais bon, définitivement, ce problème de l'autonomie, il est bien constant. Et la deuxième remarque que l'on peut faire, c'est que on sait que concernant les personnes âgées, la population augmente de façon très importante, qu'il y a une demande très importante. Alors il est sûr, il est certain que pour les deux autres clientèles que je cite ici, la demande est plus limitée en nombre, mais néanmoins lorsqu'on a un traumatisme crânien suite à un accident de voiture, on sait que ça concerne plus particulièrement des jeunes adultes. La demande, favoriser l'autonomie, elle va être là pour le reste de la vie, parce que, alors je ne vais pas dire malheureusement, mais dans bien des cas, la problématique cognitive ne va avoir aucune incidence sur le physique de la personne. La personne va avoir une espérance de vie tout à fait normale, mais va nécessiter pendant des dizaines d'années d'avoir finalement une assistance par un tiers ou éventuellement par un peu de technologie. Alors, la deuxième question sur la clientèle, je pense qu'il faut préciser le profil. Est-ce que ce sont toutes les personnes âgées qui ont une démence de type Alzheimer, voilà, quel que soit le stade? Non. C'est, voilà. Néanmoins, la question elle est très difficile à y apporter une réponse. La question est pleinement ouverte de mon point de vue. Mais il me semble qu'il y a un certain nombre d'évidences. La première chose, c'est qu'on ne veut pas rendre la personne dépendante du système. Donc si elle a finalement des troubles cognitifs qui sont relativement légers, peut-être que lui fournir un système qui va l'aider de façon relativement constante, c'est peut-être pas une bonne chose. Ça va peut-être ne pas l'aider à aller mieux, mais au contraire, la rendre plus dépendante du système. Donc on peut supposer que peut-être que dans les premiers stades, on va dire, ou pour des personnes qui ont des troubles très légers, proposer un accompagnement technologique n'est peut-être pas une bonne idée. Ça va dépendre du profil, mais bon, c'est des considérations qui me semblaient importantes de repréciser. La deuxième chose, c'est que je vous ai parlé d'orthèse. Et alors, orthèse, c'est parfois un mot qui est peut-être mal connu ou mal compris. On peut clairement l'opposer à celui de prothèse, qui lui est peut-être beaucoup plus connu. C'est la différence entre faire avec et faire pour la personne. Ce que je pense, moi et mes collègues qui travaillent dans mon domaine, moi et pas dans celui de la télévigilance, souhaitent développer, ce sont vraiment des outils pour faire avec les personnes et pas pour faire à leur place. La prothèse est là pour faire à la place. La prothèse du genou, il n'y a plus de genou. On a une mécanique en alliage quelconque dans le genou. L'orthèse, c'est le plâtre. Va nous aider à limiter l'impact de notre problématique au niveau du genou, par exemple, sur notre capacité à nous mouvoir. Voilà. Donc c'est vraiment ça la différence. On peut faire avec. Alors à partir du moment où on veut faire avec, il y a définitivement des stades beaucoup plus avancés, si on pense à tout ce qui est Alzheimer et si on se réfère à l'échelle de M. Reisberg, les stades plus avancés, que peut-être certains d'entre vous connaissent, les stades plus avancés, on ne peut plus faire avec la personne. Il faut faire à sa place. Elle a besoin d'une assistance qui est beaucoup plus complexe. Donc la technologie n'est peut-être pas la réponse, telle que moi je la vois la technologie. Donc on est plutôt dans les stades léger à modéré, mais alors poser vraiment des chiffres clairs, ça me semble très difficile. Ça va dépendre véritablement du profil de la personne. Dans tous les cas, l'objectif n'est pas de remplacer les aidants. La technologie va être là pour améliorer l'autonomie. Pourquoi pas? Oui, si possible, alléger la charge des aidants, mais elle n'est pas là pour remplacer les aidants. Il semble que ça soit un discours qu'il faille tenir parce que ça n'est pas si évident que ça pour tout le monde. Ce n'est pas du tout l'objectif. Alors, il est évident que tous ces outils technologiques, il va falloir prendre en compte le profil, qu'il y a une forte dimension de personnalisation de l'outil. Ça, du point de vue recherche, c'est une thématique, c'est un défi. Ça peut peut-être être un verrou aussi, d'ailleurs. Personnaliser, puisque bon, le profil, définitivement, il y a peut-être autant de profils que de personnes qui ont besoin de ce type d'assistance. Il va falloir essayer de prendre en compte dans nos démarches de recherche et de développement cette facette-là de la problématique. Et enfin, il se peut que parfois la technologie ne soit absolument pas la solution pour certaines personnes. Il faut accepter que ça ne sera jamais un des outils universels et que pour certaines personnes, eh bien, il faudra favoriser l'aidant naturel et professionnel parce que la technologie, pour des problématiques d'acceptation, je ne sais quoi, ne sera pas une solution. Pourquoi pas? Cela étant dit, question suivante, c'est bon. Voilà, d'un point de vue technologique, maintenant on rentre un peu plus dans entre guillemets technique. Comment on va s'y prendre pour essayer de développer de tels outils? Alors pour moi, il y a un double défi dans tous ces développements-là, c'est qu'il faut que nos services d'assistance cognitive, d'accompagnement dans la vie quotidienne, ils soient à la fois utiles et utilisables, ce qui n'est pas une mince affaire. Et moi, j'aime utiliser le terme de judicieux pour résumer ces services-là qui soient à la fois utiles et utilisables, donc judicieux. Donc il faut que nos outils répondent à un besoin et qu'ils y répondent de façon adéquate. Alors pour ça, je vous ai fait un petit entre guillemets état de l'art. Alors, en partant de la base de la technologie, on va dire, des outils technologiques, on a sur notre gauche, sur votre gauche, oui, sur la mienne aussi d'ailleurs, une montre. Si finalement la problématique de la personne avec trouble cognitif est relativement simple, on est face à un problème de mémoire, l'exemple bien connu c'est se rappeler qu'il faut prendre ses médicaments, pourquoi pas une simple montre avec une alarme? Alors le problème c'est que pour certaines personnes, lorsque la montre va sonner, la question c'est ça sonne, mais pourquoi ça sonne? Dans ce cas-là, le service tout simple qu'on peut fournir grâce à cette technologie très bon marché, etc., ne sera pas si utilisable que ça. Parce qu'il faut faire une relation sémantique entre le fait que ça sonne et ce qu'il y a à faire quand ça sonne. Donc bon, Voilà, c'est un problème. Alors là, j'ai en fait trouvé cette illustration de montre sur Internet où on voit que c'est une montre médicale qui propose en fait, en plus de la sonnerie, un petit texte. Là, bon, c'est destiné à une problématique plus médicale, on va dire, prendre son insuline. Okay. Sur la droite, j'ai un service qui fonctionne avec un téléavertisseur qui s'appelle Neuropage, qui est assez ancien et qui continue de fonctionner, de ce que j'ai vu sur leur site internet. Et donc c'est cette idée-là, on a un petit dispositif de rappel qui est porté par la personne, un télévertisseur, un pageur, comme on dirait en bon québécois, et qui rappelle avec un petit texte. Alors il faut envoyer d'avance à la centrale les rappels en précisant pourquoi il faut être rappelé. C'est pas évident au niveau de l'utilisabilité. Enfin bon, pour les aidants qui doivent enregistrer l'information rappelée, c'est pas forcément évident. Mais ça fonctionne aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Et voilà, c'est fourni par ce service-là est fourni par un centre de réadaptation, plus particulièrement pour des personnes avec des traumatismes crâniens, avec un traumatisme crânien. Alors après, on peut aller un peu plus loin. On a ici sur notre gauche un assistant numérique personnel, un PDA. Et il est vrai que si on a un traumatisme crânien, on a besoin d'avoir une aide pour organiser son quotidien, pour noter ce qu'on a réalisé, donc un calendrier ou des notes, ça peut être pas mal, pour se rappeler de nom, numéro de téléphone, donc voilà, enfin, des outils très simples que l'on trouve dans n'importe quel PDA aujourd'hui. Le problème, c'est concrètement, si on prend un PDA du commerce, et il y a des études qui ont été faites avec ce type d'outils, par des ergothérapeutes, des psychologues, par exemple, on se rend compte que là, le problème d'utilisabilité, il est bien, bien présent, parce qu'il faut aller chercher l'information dans ce type d'outil. L'information ne vient pas à vous, il faut aller la chercher. Donc si la mécanique n'est pas évidente pour la personne, ça ne fonctionne pas. Donc sur la droite, on a notre même type de support, un PDA, et un outil qui a été développé spécifiquement pour cette clientèle-là, qui s'appelle donc PIT, cet outil-là, qui est vendu, toujours commercialisé, ça a aussi quelques années, mais c'est toujours commercialisé par la société BrainHead aux États-Unis. Et pareil, c'est destiné à des personnes avec un traumatisme crânien, mais aussi avec des personnes avec une démence. On voit que l'interface est très très simple, voilà. C'est commercialisé. Après, on peut se poser une petite question concernant l'utilité. Je vous ai parlé que, bah oui, grâce à la technologie, on peut par exemple rappeler qu'il est important autant de prendre ses médicaments à une personne qui nécessite ce type de service. Le problème, c'est si la personne a déjà pris ses médicaments. On va lui rappeler, elle a anticipé, elle a peut-être très bien fait. Donc on va lui rappeler qu'il faut qu'elle prenne ses médicaments, on risque de les prendre deux fois. Bon, on rentre dans des problématiques plus complexes, mais dont il faut absolument tenir compte. Et donc là, je vous présente une petite illustration d'un projet de l'Université du Michigan, l'équipe de Madame Martha Pollack, s'il y a des informaticiens qui travaillent dans le domaine de la planification ici, qui s'appelait AutoMinder, Minder pour Reminder, tout simplement. Donc c'est un robot, c'était un robot nurse, en fait, qui, entre guillemets, suivait les personnes. Alors ici, il s'agit de personnes âgées avec une démence, en fait. Alors l'idée, c'était de fournir un support pour du rappel, ce genre de service technologique. Et aussi, grâce au capteur situé sur ce petit robot mobile, d'essayer d'inférer ce que la personne a réalisé. Donc l'idée, c'était ça. On ne va pas rappeler à la personne qu'elle doit prendre ses médicaments si elle a déjà réalisé cette activité-là. Alors ils se sont aperçus qu'ils n'arrivaient pas véritablement à comprendre tout ce qui se passait avec ce petit robot. Et ils sont allés vers une démarche par la suite dont on va parler, qui est celle de plus de l'intelligence ambiante. Mais là, la question-là, c'est celui de l'utilité. C'est vraiment ça. Et ne pas rappeler, si la personne a commencé à réaliser l'activité, on ne va pas rappeler, c'est inutile. On risque de la rendre plus dépendante du système qu'autre chose. Alors pour finir, cette partie-là, je vous propose un dernier comparatif, entre guillemets, qui va reprendre cette question-là. Sur la gauche, on a un outil qui s'appelle le Visual Assistant de chez Able Link. C'est commercialisé aux États-Unis, c'est destiné à une population avec une déficience intellectuelle. Ça a été conçu pour eux. On a en fait un petit assistant qui montre comment réaliser étape par étape, pas à pas, une activité. Donc c'est ce qui est sur la gauche, le PDA à nouveau. Donc on a une illustration visuelle de l'étape de l'activité, un petit bouton next pour aller à l'étape suivante, un texte, le nombre d'étapes, etc. Voilà. Alors, ce genre d'outil, ça fonctionne bien pour des activités très simples. Par exemple, ça a été évalué dans des centres d'aide par le travail, l'équivalent aux États-Unis, pour des activités alors, de type assemblage de boîtes de pizza, type de travail que ces personnes-là réalisent dans ce type de centre. Et donc, comme ça, guidé à travers les différentes étapes, ça fonctionne relativement bien. La question, c'est si on veut réaliser des activités plus complexes, avec ce système-là, on peut cliquer sur le bouton Next sans avoir... Et ce, de façon, enfin, on peut cliquer sur le bouton Next, le bouton suivant, sans avoir réellement validé l'étape courante. L'objectif n'est pas de mentir au système, de vouloir tromper le système. Bon, il y a toujours moyen, parce que tout simplement, ces personnes-là ne vont pas être conscientes de tout ce qu'impliquait la réalisation de l'étape courante. Et donc, il faut aller un petit peu vers autre chose. C'est comme pour le robot que je vous ai présenté avant. L'idée, en fait, c'est d'aller vers une approche qui est un peu plus du type intelligence ambiante. C'est d'arriver pour le système, à récupérer un petit peu plus d'informations sur ce que réalise la personne, afin de comprendre ce qui se passe par lui-même. Et si finalement il y a une contradiction entre ce que pense avoir réalisé la personne et ce que le système infère qu'elle a réalisé, eh bien lui proposer une assistance en conséquence. Et donc je vais vous parler, je vais illustrer ce concept-là avec le projet en fait, que j'avais réalisé en thèse qui s'appelle Archipel. Donc l'approche intelligence ambiante, j'ai utilisé le terme plus européen, l'idée c'est de fournir des services au cœur de l'espace de vie des utilisateurs et inspiré de leur vie quotidienne. Je vais le résumer comme ça. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va, dans l'espace de vie de la personne, déployer un certain nombre d'outils technologiques relativement simples, notamment des capteurs. Donc, bon, je sais que Jérôme reparlera de capteurs par la suite. Ils seront peut-être portés ici, ils sont répartis dans l'environnement. Grâce à ces capteurs, vous en avez quelques illustrations, des choses relativement simples. On va récupérer de l'information, et ce, de façon implicite, en fait. La personne... elle va vaquer à ses occupations dans son environnement et elle va donner de l'information au système de façon implicite. Elle peut aussi en donner de façon explicite si on lui fournit les outils pour. Alors grâce à un capteur sur une porte, on va savoir que le frigo réfrigérateur a été ouvert, etc. Des tags RFID, on va savoir ce qui a été pris dans le réfrigérateur. On peut, d'un point de vue technologique, imaginer beaucoup de choses. Ce n'est pas de la science-fiction. Et à partir de là, essayer de comprendre ce qui se passe et... on voit sur la droite, et s'il y a un problème, répondre. Et répondre, pourquoi pas, là où se situe le problème. En bas à droite, vous avez un tiroir équipé d'un petit système lumineux très simple, c'est une LED. On peut contrôler ça très facilement par un système informatique. Et bien l'idée là, c'est tout simplement, la personne en fait cherche des ustensiles, quelque chose pour réaliser sa recette de cuisine. Ça se situe dans le tiroir, dans ce tiroir-là, elle ne sait pas où c'est. Eh bien, avec cette approche-là, on peut fournir des interactions un peu plus tangibles, apporter l'information d'assistance là où le problème est, sur le tiroir, parce que c'est dans le tiroir que ça se passe. C'est cette idée-là qu'on tente de mettre en œuvre dans ce type d'approche et de favoriser définitivement à la fois l'utilité des services, parce que ça va répondre à une problématique réelle, et l'utilisabilité, essayer d'avoir des interactions dans l'environnement, plus tangible, plus concrète, pour bien faire passer le message d'assistance à la personne. Donc, si on veut aller vers ce type d'outils, il y a un certain nombre de défis qui sont conséquents. Alors, il y a les considérations matérielles, les capteurs, les effecteurs, les actuateurs, etc. Mais bon, comme je l'ai dit, on n'est pas dans la science-fiction, il y a beaucoup de choses qui existent. C'est plutôt comment utiliser tout ça pour mettre en œuvre des services. Donc pour suivre les actions de l'utilisateur dans son espace de vie, pour analyser ses actions et comprendre s'il y a une problématique, donc autrement dit, pourquoi assister? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, le système se mettrait à assister? Aussi pour penser l'assistance, une fois qu'on a compris qu'il y avait un problème, comment on s'y prend pour répondre à cette assistance? Que faut-il dire? Comment faut-il dire? Quand le dire? Peut-être que la personne est occupée à faire autre chose. S'il lui envoie le message maintenant, elle ne va pas le saisir. Donc l'assistance ne sera pas comprise, donc ça ne fonctionnera pas. À qui le dire? Peut-être qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on essaye de faire passer un message d'assistance à une personne, que définitivement on n'y arrive pas. On a utilisé différentes modalités d'interaction, on a travaillé là-dessus, sur le niveau d'abstraction de l'information qu'on lui fournissait. Ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il faut appeler un tiers, peut-être qu'il faut agir automatiquement sur l'environnement. Par exemple, si la cuisinière est équipée, peut-être qu'il faut couper automatiquement le gaz parce qu'on n'a pas réussi à faire passer le message comme quoi c'était problématique, etc. Et il faut aussi être capable d'évaluer l'assistance qu'on a fournie pour savoir si oui ou non on a besoin de s'y prendre autrement, etc. Donc il y a tous ces défis-là à couvrir. On n'en est que définitivement aux premières étapes. Et pour répondre à ces défis-là, donc j'entrerai, parce que je n'ai pas le temps de toute façon, on pourra en discuter, pas dans les détails techniques réels. Pour répondre à ces défis-là, il y a un certain nombre de problématiques qui sont mises en jeu, de l'ordre concernant l'informatique, tout ce qui est donc informatique diffuse, sensibilité au contexte, donc ce que j'ai regroupé sous le terme d'intelligence ambiante, diffuser la technologie pour avoir des services qui sont sensibles à ce qui se passe, au contexte tout simplement. Tout ce qui est interaction aux machines, tout ce qui est personnalisation, aussi tout ce qui est sécurité et vie privée. Ça, on n'y échappera pas et c'est bien normal. Et tout ce qui est aussi usage, évaluation. Donc il y a des sessions au cours de ces deux journées qui parleront de ces aspects-là, etc. Et pour répondre à ces problématiques, ce qui me semble le plus important dans ce slide-là, c'est l'interdisciplinarité. Moi, en tant qu'informaticien, je ne peux pas y répondre tout seul, c'est évident. J'ai besoin de... aussi de personnes qui travaillent dans les réseaux électroniques, etc., mais aussi de personnes du côté ergonomie, ergothérapie, sciences de la rééducation, donc aussi linguistique, etc. Définitivement, il faut absolument travailler ensemble. Quelques résultats pour ce type de travaux. Alors, je vous ai mis tout d'abord Coach. Coach, c'est un travail qui a quelques années maintenant, qui est bien bien connu dans ce type d'outil, le type de réalisation qui nous vient de chez M. Mialidis de l'Université de Toronto. Canada. Alors c'est un système relativement simple. En fait, l'idée, c'est d'aider les personnes qui ont une démence, en l'occurrence ici, c'est avec eux que ça a été évalué, à réaliser une activité très précise qui est celle du lavage des mains. Donc en fait, on a ici un système qui dispose d'une caméra placée au-dessus de la scène et qui vise en fait à reconnaître la position à inférer, la position des mains, l'utilisation du robinet, etc., du savon. Alors, je pense que Thomas parlera d'utilisation de caméras pour fournir des services. Il y a des considérations éthiques qui rentrent en jeu ici. Je n'en discuterai pas ici. Et il y a aussi un débitmètre dans ce système-là qui permet de savoir si l'eau est utilisée ou non. Et derrière, en fait, on a, alors pour placer un terme technique, c'est un processus de décision markovien qui est utilisé pour modéliser en fait, l'activité et... L'idée, c'est, étant donné l'étape courante qui va être inférée grâce à la caméra et aux autres capteurs, donc on sait qu'il y a X étapes pour réaliser cette activité de lavage des mains, étant donné l'étape courante inférée par le système, quel est le message ici, ce ne sont que des messages audio qui sont fournis à la personne, quel est le meilleur message en fonction de tous ces critères-là, le nombre d'étapes qui a été réalisé précédemment, où en est la personne, etc. Quel est le meilleur message à fournir, pour que la personne aille en direction du but qui est de s'être lavé les mains, tout simplement. Alors, le résultat montre une augmentation de 25% du nombre d'étapes réalisées lorsque leur thèse est présente. Voilà. Alors, ces travaux-là, vous trouverez sans problème des publications, si ça vous intéresse, sur les sites des personnes. Alors, je vais vous glisser quelques mots aussi d'Archipel, donc le travail que j'avais réalisé, sur lequel je continue de travailler à Télécom Sud Paris. L'idée ici, c'est de fournir un suivi pas à pas, pour réaliser des activités qui sont prédéfinies. On tente de comprendre les erreurs tout simplement, de réalisation et d'assister en conséquence. Alors les activités sont prédéfinies. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne, en particulier, on l'a évalué avec des activités type préparer une recette. Donc il faut imaginer que la personne rentre dans la cuisine, elle a par exemple un écran tactile, on lui propose quelques recettes adaptées. Donc elle a conscience qu'elle a besoin d'une aide pour réaliser ses recettes. Elle en sélectionne une et on va l'aider pas à pas pour réaliser cette activité grâce aux capteurs qu'on a déployés dans l'environnement et aux différents supports d'interaction qu'on a aussi disposés dans l'environnement. Donc ici, pour les techniciens, on ne fait pas de reconnaissance d'activité parce qu'on connaît le but de la personne, on fait du suivi de la réalisation, du monitorage d'activité. Donc après, il y a des problématiques qui sont différentes. Cet outil-là, il a été évalué... Alors j'aime dire par 12 personnes, c'est pas avec, mais par 12 personnes avec une déficience intellectuelle. Il y a d'autres évaluations qui sont en train d'être mises en œuvre avec des personnes âgées, avec des démences. Alors je vous passe les chiffres. En fait, ce qu'on constate, alors l'évaluation s'est déroulée de la façon suivante. On a demandé à ces 12 personnes de réaliser deux activités similaires. Proche. Alors c'était deux variantes d'une recette de pâtes à la bolognaise. Voilà. On leur a demandé de réaliser une fois cette recette, la variante 1 avec la technologie et la variante 2 sans technologie. Alors c'était séparé en deux groupes, avec la techno, sans techno et inversement pour l'autre groupe. Et il y avait avec eux un référent humain, un aidant humain, une personne qui était là, un psychologue en fait, qui leur servait de référent, qui était là pour répondre à leurs questions. Et alors ce que l'on constate, c'est qu'en fait il y a une diminution importante du nombre d'interventions de la personne humaine lorsque la technologie est présente. Il y a une amélioration de l'autonomie. Alors il y a, je sais enfin que quelqu'un... Alors ça, l'expérimentation a été réalisée au laboratoire, dans un laboratoire canadien où j'ai fait ma thèse, à l'université de Sherbrooke. Et je sais qu'il y a actuellement quelqu'un qui analyse toutes les vidéos qui ont été faites de ces expérimentations-là pour sortir des résultats plus qualitatifs. Pour l'instant, on a du quantitatif. On sait qu'il y a une amélioration de l'autonomie. Il y a une diminution du nombre d'interventions de la personne humaine lorsque la technologie est là. On sait aussi qu'il y a un changement de niveau d'abstraction des commentaires faits par la personne, par l'aidant humain. Je m'explique. Lorsque la technologie n'est pas là, si la personne demande où les ranger les casseroles, il va lui indiquer. Lorsque la technologie est là, il va lui plutôt tenter de l'inciter à utiliser l'outil technologique. En l'occurrence, dans cet outil, il y avait un outil pour localiser dans l'environnement les ustensiles, les casseroles, tout ce que vous voulez. Donc en fait, le niveau d'interaction est différent. Et il y a un travail en cours pour essayer de sortir des données un peu plus qualitatives sur le type d'interaction et bien comprendre comment se fait la différence entre lorsqu'il y a la technologie et lorsqu'elle n'est pas là. Ce qu'elle apporte et ce qu'elle n'apporte pas. Alors c'est comme pour coach, on a un 25%, c'est vraiment, ça va être ma conclusion, on est dans la preuve de concept pour l'instant. Je ne confierai pas ça à ma grand-mère demain, c'est évident, mais par contre je vais continuer pour un certain nombre d'années, ça puisse être réalisé. Je voulais vous citer très rapidement, parce que je pense que mon temps... un projet Cogno qui est un peu différent. Là, on s'intéressait à des problèmes un peu plus de sécurité. Rappeler à la personne que, par exemple, la porte n'était pas validée, verrouillée le soir, la nuit tombante. C'est un projet européen auquel a participé le laboratoire Handicom, donc je voulais vous le citer. Et bon, l'intérêt de ce type de ce projet-là, avec un grand consortium, c'est qu'il y avait beaucoup de partenaires cliniciens. Donc là, il y a eu tout un travail qui a été fait, des services technologiques relativement simples fournis. Donc par exemple, c'est ça, rappeler que la porte n'a pas été verrouillée grâce à un petit capteur placé sur la porte, etc. Et donc il y a eu beaucoup d'évaluations. Donc les usages, etc., étaient beaucoup regardés. Donc pour terminer, les conclusions en perspective. Ce qu'on a démontré, les différentes personnes qui travaillent dans ce domaine-là, c'est qu'il y a une faisabilité, on peut grâce à la technologie, en particulier si on met en œuvre le paradigme intelligence ambiante, donc pour essayer de favoriser l'utilité et l'utilisabilité des services lorsqu'on veut aider sur des activités relativement complexes, lorsque la personne a besoin de ce type d'assistance. On a montré que oui, on était capable de fournir des services qui avaient un minimum de sens. Néanmoins, en fait, si on regarde, si on approfondit un petit peu, si on va, entre guillemets, fouiller dans le code, on va s'apercevoir que ce que l'on a démontré aujourd'hui, c'est que pour un problème bien particulier qui va se réaliser dans un contexte bien particulier, avec une personne qui a un profil cognitif bien particulier, dans un espace de vie bien donné, là, oui, on est capable d'assister. Finalement, c'est un peu ça qu'on a démontré aujourd'hui. Le projet Cogno... C'est vraiment ça, c'est pour des services très très particuliers, oui, on démontre qu'on peut apporter une solution technologique. La question, c'est si on veut aller plus loin, si on veut, dans le futur, prochainement, passer de la preuve de concept à l'innovation, est-ce que si on continue à réaliser ce type de travaux, bon, pour un petit problème bien ciblé, bah oui, on fournit une solution, on montre que ça marche un peu. Si on met bout à bout toutes ces solutions ad hoc, est-ce qu'on aura véritablement des systèmes qui ont un minimum d'ambition, qui peuvent couvrir un ensemble de problèmes, j'en suis pas convaincu du tout. Donc pour moi, la perspective principale, c'est d'essayer de s'y prendre un petit peu autrement, de prendre de la hauteur. Non plus démontrer que voilà, pour un problème particulier, on démontre qu'on est capable de le faire, mais montrer ce que veut dire assister pour une machine. Pas assister pour quelque chose de particulier, mais assister. Autrement dit, réfléchir sur, d'une façon beaucoup plus générique, quel est le processus d'assistance cognitive qu'un dispositif technologique doit mettre en œuvre pour être capable d'assister, de répondre à un ensemble de problèmes dans un ensemble d'espaces de vie pour un ensemble de profils. Donc de prendre un petit peu de hauteur, face à toutes ces considérations peut-être trop ad hoc, mais il fallait passer par là, il fallait prouver que ça avait un minimum de sens. Donc pour moi, l'avenir de cette recherche-là, ce à quoi je m'intéresse, c'est ça. Alors c'est loin d'être simple, mais bon, prendre un petit peu de hauteur, et prendre un peu de hauteur pour finalement l'ensemble des thématiques que j'ai citées précédemment, comprendre, faire de la reconnaissance ou du suivi d'activité, etc. Alors là, de ce point de vue-là, finalement, travailler sur des choses plus génériques, il y a des choses qui se font. Mais si on va par contre du côté de comment dialoguer avec une personne, imaginons qu'on ait compris son problème, pour lui fournir une assistance, pour lui fournir un message, pour lui envoyer un message et s'assurer que ce message a été compris, travailler là-dessus d'une façon un peu plus générique, là, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Et moi, c'est cet aspect-là qui m'intéresse plus particulièrement. C'est d'avoir une vision un peu plus haut niveau pour pouvoir sortir un jour, à moyen terme, des systèmes qui soient un peu plus ambitieux. Et pour finir, une autre dernière petite remarque, c'est que, imaginons qu'à moyen terme, on arrive à développer ce type de système qui soit capable de couvrir un ensemble de besoins, et non pas un petit besoin, d'une façon relativement intéressante, utile, utilisable. Si la personne, une fois qu'elle a franchi le pas de sa porte, il n'y a plus rien ne se passe, entre guillemets, ça n'aura pas non plus forcément un sens, ça sera pas complètement pertinent. Donc il y a une dernière question que je voulais introduire, c'est celle de la continuité des services. Alors imaginons que la personne a quitté son domicile. Alors, assistant mobilité, il y a différents travaux qui ont été réalisés pour l'aide au déplacement, etc. Mais là, la question, elle est un peu plus subtile que ça, c'est la continuité des services. Fournir des services à l'intérieur, puis fournir des services à l'extérieur, c'est une chose, mais quelle continuité ? Comment est-ce que ce qui est fourni à l'intérieur peut être suivi lorsque la personne quitte son domicile ? C'est une autre question. Et il y a une petite preuve de concept qui est réalisée dans le cadre d'un projet Cohabit, systématique au Conseil général de l'Essonne, au sein duquel participe Handicom. Là, non pas pour la population avec une problématique cognitive, mais pour la population avec problématique physique, personne en fauteuil roulant, se poser cette question. Continuité de service, qu'est-ce que ça veut dire ?